VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous. Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 1er novembre 2019, en direct de Washington. Eric Manilakidza.
Et Anne Albertson.
Pour commencer les titres.
Yaoundé toujours muet face à la fin du programme AGOA, décidé par le président Donald Trump.
José Mario Vaz, président de la Guinée-Bissau, défie la CEDEAO et nomme un nouveau gouvernement.
Au Bénin, le Parlement adopte un projet de loi amnistiant les auteurs des violences lors des manifestations post-électorales d'avril.
Aux États-Unis, la procédure de destitution contre Donald Trump prend une nouvelle étape. La Chambre des représentants adopte une résolution donnant un cadre formel aux investigations.
À Yaoundé, le gouvernement n'a toujours pas réagi à la décision du président américain Donald Trump de mettre un terme à la participation du Cameroun au programme AGOA, qui permet l'exportation aux États-Unis de produits des pays bénéficiaires sans droit de douane. En revanche, cette nouvelle n'a pas laissé indifférents les Camerounais. Correspondance d'Emmanuel Juntap.
Les internautes camerounais ont abondamment réagi au retrait annoncé du Cameroun parmi les bénéficiaires des avantages de l'AGOA. L'AGOA n'a aucun impact sur le panier de la ménagère, a commenté un internaute proche du parti au pouvoir sur sa page Facebook. À cause du régime terroriste de Yaoundé, Washington sur le point de suspendre sa coopération commerciale avec le Cameroun, écrit pour sa part le journaliste Michel Mbiemton en froid avec le gouvernement. L'ambassade des États-Unis au Cameroun a rendu public jeudi soir un communiqué qui explique les raisons de la décision du président Donald Trump. Le président a trouvé le Cameroun non conforme aux critères d'éligibilité à l'AGOA en raison de son implication dans les violations flagrantes des droits de l'homme reconnus internationalement. Peut-on lire dans ce communiqué, selon les autorités américaines à Yaoundé, l'engagement des États-Unis envers le Cameroun demeure fort malgré le changement de statut de l'AGOA. Le Cameroun a exporté en 2018, approximativement 220 millions de dollars en biens et services vers les États-Unis. 63 millions de dollars de ces exportations l'ont été au titre de l'AGOA, dont plus de 90% sous forme de pétrole brut. En février dernier, Washington avait suspendu les programmes d'aide au Cameroun concernant la formation militaire et les armements pour un total de 17 millions d'euros. Yaoundé, Emmanuel Jeloutap, VOA Afrique.
En Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz persiste et signe. Il a nommé hier un nouveau gouvernement, continuant à défier ainsi la communauté internationale qui refuse le limogeage du premier ministre Aristide Gomez. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le président bissau-guinéen a publié hier un décret portant nomination de 17 ministres et 14 secrétaires d'État. Plusieurs membres de ce cabinet avaient servi dans un gouvernement de transition après le coup d'État de 2012. Maintenant, le pays a de fait deux gouvernements. Celui d'Aristide Gomez, démis lundi par le gouvernement, mais qui n'accepte pas de céder la place, et celui de Faustino Imbali, nommé mardi nouveau premier ministre. Le mandat de M. Vaz lui-même a expiré le 23 juin. Ses agissements ont été désavoués par la CEDEAO, qui a déclaré illégaux les actes posés par le président Vaz. Le gouvernement démis lundi est le seul pouvoir exécutif légitime en Guinée-Bissau, a dit pour sa part l'Union européenne. Malgré tout, le président Vaz, candidat à sa propre succession, a assuré que la présidentielle aurait bel et bien lieu le 24 novembre.
Au Bénin, le Parlement a voté hier une loi d'amnistie pour les auteurs des violences commises lors des manifestations post-électorales d'avril, violences qui avaient fait une dizaine de morts par balle à travers le pays. Précision d'Irène Herman Ungbo.
Le texte a été voté à l'unanimité par les députés élus lors des dernières législatives. L'amnistie concerne les faits constitutifs de crimes, de délits ou de contraventions commis au cours des mois de février, mars, avril, mai et juin 2019 à l'occasion du processus des élections législatives du 28 avril 2019. La nouvelle loi fait partie des recommandations proposées par un comité d'experts à l'issue du dialogue politique voulu par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Le Parlement béninois poursuivra sa session et a d'ores et déjà assuré qu'il voterait très rapidement les lois recommandées par le comité, qui prévoit notamment une révision de la Constitution. Pour sa part, l'opposition béninoise projette une marche de protestation pour s'insurger contre la révision de la Constitution. Hier, plusieurs leaders d'opposition se sont réunis à l'invitation de l'ancien président Nicéphore Soglo pour définir les actions à mener.
En Gambie, une ancienne reine de beauté a livré jeudi un témoignage accablant contre l'ancien président Yahya Jammeh, aujourd'hui en exil, l'accusant devant la commission Vérité et Réconciliation de l'avoir violée pour l'humilier et lui faire payer le rejet de sa demande de mariage. Ce que Yahya Jammeh voulait, c'était me faire du mal. Ce qu'il voulait, c'était me donner une leçon. Ce qu'il voulait, c'était manifester son ego, a déclaré Fatou Toufa Diallo dans un témoignage éprouvant, commencé avec fermeté, puis interrompu par les pauses et les larmes à l'évocation des faits survenus en 2015.
En Éthiopie, plus de 400 personnes ont été arrêtées à la suite des violences qui ont fait 78 morts lors de manifestations la semaine dernière. C'est ce qu'a indiqué jeudi une porte-parole du Premier ministre Abiy Ahmed. Des violences avaient éclaté le 23 octobre lors de manifestations contre M. Abiy à Addis Abeba et dans une bonne partie de la région d'Oromia, après qu'un activiste controversé, Jawar Mohamed, a accusé les forces de sécurité de tenter de fomenter une attaque contre lui, accusation rejetée par les autorités. Les affrontements ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre, mais aussi des communautés entre elles durant trois jours.
Au Zimbabwe, le chef de la diplomatie Sibu Sisso Moyo a accusé jeudi l'ambassadeur américain à Harare de se comporter comme un membre de l'opposition qui insultait les autorités. Elle a menacé à mots couverts le diplomate de l'expulser s'il persiste dans ses critiques. La semaine dernière, l'ambassadeur Brian Nichols avait estimé sur les réseaux sociaux que les sanctions américaines contre le Zimbabwe n'étaient pas responsables de la faillite tragique du Zimbabwe. La responsabilité en incombe à la gestion catastrophique de ceux qui le dirigent et aux abus du gouvernement contre ses propres citoyens, avait-il affirmé.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, la Chambre des représentants à majorité démocrate a adopté hier une résolution donnant un cadre formel aux investigations visant à la destitution du président Donald Trump. Les démocrates accusent M. Trump d'avoir abusé de son pouvoir à des fins personnelles. Idrissa Seydoudia.
Les élus se sont très largement conformés aux consignes de leur parti, à l'exception de deux démocrates. Les républicains ont fait bloc autour de Donald Trump en dénonçant une mascarade. La résolution a recueilli 232 voix favorables contre 196. C'est notre démocratie qui est en jeu, a affirmé dans l'hémicycle la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, tenant à donner à cet événement rare une tonalité solennelle. Avec ces auditions publiques, nous rechercherons la vérité et nous ferons en sorte que les Américains puissent se faire leur propre idée sur l'affaire ukrainienne, a expliqué Mme Pelosi. Le président Trump a très rapidement dénoncé ce qu'il a appelé la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine. C'est inique, inconstitutionnel et fondamentalement anti-américain, a dit M. Trump. Par ailleurs, un conseiller à la Maison-Blanche, spécialiste de la Russie, Tim Morrison, a été à son tour entendu hier à huis clos. D'après des médias américains, il a confirmé aux élus qu'en coulisses, Washington avait réclamé l'ouverture d'une enquête à Kiev sur l'entreprise employant Hunter Biden, fils de l'ancien vice-président Joe Biden, avant de débloquer une aide militaire destinée à l'Ukraine. Selon les éléments qui ont fuité, des ambassadeurs et des hauts responsables ont livré des témoignages parfois accablants pour la Maison-Blanche.
L'organisation ultra-radicale État islamique a confirmé jeudi la mort de son chef Abu Bakr al-Baghdadi, cinq jours après l'annonce de son décès par le président Donald Trump dans une opération américaine en Syrie. Elle a aussi nommé son successeur et a menacé les États-Unis de représailles. Le nom d'Abu Ibrahim al-Hachemi al-Kourachi, appelé dans un message audio en commandeur des croyants et nouveau calife des musulmans, avait rarement été mentionné parmi les potentiels successeurs de Baghdadi. Nous ne savons pas grand-chose de lui, sauf qu'il est le principal juge de l'organisation et qu'il dirige l'autorité de la charia à loi islamique, a indiqué à l'AFP Hicham al-Hachemi, un expert irakien du groupe État islamique.
En Irak, le président Bahram Saleh a proposé jeudi des élections anticipées, ce qui est loin des espérances du mouvement de contestation qui réclame la chute du régime tout entier après des violences qui ont fait plus de 250 morts dans le pays. M. Saleh, qui rencontre les chefs de parti depuis plusieurs jours, a ajouté que le premier ministre Adel Abdel Mahdi, sur la sellette, était d'accord pour démissionner à condition que les blocs au Parlement s'entendent sur un remplaçant, ce que ces derniers ne parviennent pas à faire. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Dans l'actualité économique, suivez la Minuteco signée Nanit Talani.
Le budget 2020 de l'Angola s'élève à 31,9 milliards de dollars. Il est supérieur de 9,07 milliards de dollars au budget de l'année 2019, soit une hausse de près de 40%. Selon le ministère des Finances, cette augmentation a pour objectif de garantir qu'une part considérable des dépenses soit consacrée au remboursement de la dette publique, sans négliger les autres dépenses sociales qui représentent 40,70% du budget. L'État angolais cherche à réduire une dette publique étouffante qui tourne autour de 90% du PIB. La Banque africaine de développement annonce une augmentation de son capital qui va passer de 93 à 208 milliards de dollars. Cette croissance de 120% est la plus importante de l'histoire de l'institution. La BAD estime que l'augmentation du capital, synonyme de beaucoup de ressources, lui permettra de s'investir davantage dans sa mission de développer l'Afrique. Pour finir, dans le cadre d'un plan triennal, MTN étudie la suppression de ses actifs de commerce électronique déficitaires et sa présence dans les pays où elle n'a aucune chance de se classer parmi les deux premières places en termes de part de marché. La société veut se concentrer sur les marchés à forte croissance de l'Afrique et du Moyen-Orient après des affrontements avec des régulateurs au Nigeria, en Ouganda et ailleurs. MTN a aussi un plan de désinvestissement de 15 milliards d'euros en cours. Elle est en pourparlers pour céder 49% de ses parts dans ATC Ghana et ATC Ouganda.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour. La République démocratique du Congo va accueillir les 9e Jeux de la francophonie, n'est-ce pas?
Ainsi en a décidé la 36e conférence ministérielle de l'OIF, réunie à Monaco après le retrait de la province canadienne du Nouveau-Brunswick, qui a invoqué l'explosion du coût financier des Jeux. Le budget de ces Jeux a été multiplié par près de 15 millions de dollars canadiens en 2016 à 130 millions de dollars avant d'être ramené à 62 millions de dollars en 2019 par le comité organisateur. Les prochains Jeux auront donc lieu en RDC du 23 juillet au 1er août 2021.
Et du côté du Royaume-Uni, à Cuba, 48 abonnés de Tottenham sont bannis à vie.
Le club londonien a banni à vie 48 abonnés qui ont revendu des tickets pour le match de Ligue des Champions contre l'Étoile Rouge de Belgrade à des supporters adverse. Environ 200 supporters ont pris place dans les tribunes du Tottenham Hotspur Stadium le 22 octobre pour assister à la déroute de leur équipe 5-0, alors que l'UEFA a interdit la vente de billets après des incidents racistes contre le HJK Helsinki au deuxième tour de qualification pour la Ligue des Champions. Tottenham, qui est sous le coup d'une enquête de l'UEFA à ce sujet, tout comme l'Étoile Rouge, a identifié 48 abonnés qui avaient acheté plusieurs billets avant de les revendre illégalement. Ils ne pourront plus entrer dans le stade à l'avenir.
Et le retour de Lionel Messi avec l'Argentine, l'Albi Céleste, comme on dit.
La Pulga a été convoquée en sélection pour les matchs amicaux contre le Brésil et l'Uruguay. En novembre, après sa sanction de 3 mois, Messi avait été suspendu pour avoir accusé la Confédération sud-africaine de football d'avoir favorisé le Brésil lors de la demi-finale perdue 2-0 en Copa América, remportée par la Seleção en juillet dernier. Pour les retrouvailles avec le Brésil le 15 novembre à Riyad et la rencontre face à l'Uruguay le 19 à Tel Aviv, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a rappelé le crack de Barcelone qui avait aussi été sanctionné d'une amende de 50 000 dollars.
De la NBA, avant de terminer, Yakuba, Stephen Curry a cassé sa main gauche.
La star de Golden State s'est cassé la main gauche après être mal retombée au cours de la lourde défaite concédée contre Phoenix, 121 à 110 mercredi. Cette blessure est un coup dur pour les Warriors, déjà privés au moins jusqu'au printemps de son autre joueur majeur, Klay Thompson, qui soigne une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Le finaliste de ses 5 dernières saisons en NBA, 3 fois sacré inscrits en 2015, 2017 et 2018 est méconnaissable en ses débuts d'exercice. Et justement, puisqu'on parle de NBA, les résultats des matchs au programme la nuit dernière.
Oui, Yacouba, les Los Angeles Clippers ont infligé à San Antonio sa première défaite de la saison 103-97. Les Pelicans ouvrent leur compte en victoire face à Denver 122-107. À Atlanta, le Heat retrouvé en mode back-to-back. La victoire était au rendez-vous avec 106-87, 97 plutôt devant Miami.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Eric Manelakiza. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, le président Alpha Condé a eu droit ce jeudi à un bain de foule. Une marée humaine l'a accueilli à l'aéroport international de Bessia. Une mobilisation sur fond de soutien au projet de nouvelle constitution. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara.
Sur un podium géant, plusieurs artistes guinéens se sont relayés pour donner une couleur festive à l'événement. C'est la deuxième grande mobilisation à Conakry en une semaine après celle des anti-troisième mandat. Pour les organisateurs, cette marée humaine est loin d'être la réponse du berger à la bergère. Banta Masso, membre du bureau politique du parti au pouvoir.
Ce n'est pas une réponse à la marche, mais c'est la réponse à tous ceux qui pensent qu'Alpha Condé n'a plus de soutien en Guinée. Aujourd'hui, nous allons prouver à la face du monde qu'il n'y a pas un homme aussi crédible qu'Alpha Condé en Guinée, qu'il n'y a pas un homme aussi populaire qu'Alpha Condé en Guinée.
Cette autre manifestation prouve que le débat sur la nouvelle constitution divise les Guinéens. Devant une telle situation, il faut convoquer les Guinéens aux urnes pour trancher, propose Souleymane Keïta, conseiller du président Alpha Condé.
Il y a une partie de la population qui n'est pas pour la nouvelle constitution. Il y a une autre partie qui est pour, qui c'est la mouvance présidentielle et l'ensemble de tous les alliés. Donc nous pensons que le président étant l'arbitre a le devoir de départager la situation en convoquant le peuple de Guinée au référendum. Et dans ces conditions-là, la majorité l'emportera et le débat sera clos.
Allons au référendum ou encore oui à la nouvelle constitution. Tels étaient des messages marqués sur les pancartes et t-shirts. Des mots de soutien scandés de l'aéroport jusqu'au centre-ville par des jeunes militants du RPG arc-en-ciel parti au pouvoir.
Nous demandons juste au FNDC d'aller au référendum. On n'a pas demandé autre chose.
Nous sommes là pour le dire que nous sommes avec lui. Nous sommes là pour le dire que nous serons avec lui. Nous sommes là pour le dire que le combat continue.
De l'aéroport, le président Condé a été accompagné par ses militants jusqu'au palais Sérou Touréa. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Niger, le pouvoir et l'opposition vont bientôt entamer un dialogue à un an de la présidentielle de décembre 2020. Le premier ministre Brigui Raffini l'a annoncé après une rencontre avec les représentants de l'opposition qui refuse depuis 2017 de siéger à la commission électorale et conteste le nouveau code électoral. Idriss Fall, adjoint à Niamey, Amadou Ali Djibo, président du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République.
Le dialogue inclusif que nous avons demandé avec le gouvernement, ça fait 3 ou 4 ans qu'il y a eu une interruption de l'instance qu'on appelle le Conseil national de dialogue politique, CNDP, qui ne fonctionnait pas depuis la veille des élections d'ailleurs de 2016. Alors, en ce moment, le Premier ministre a trouvé opportun de nous rencontrer et de nous demander si nous ne pouvons pas réactiver le mouvement et revenir à la table de négociation. À la table de négociation, je dis bien, parce que nous avons toujours été demandeurs d'un dialogue inclusif pour que nous puissions nous entendre sur un minimum. Ce qui n'avait pas été fait par le passé.
Maintenant, dialogue autour de quoi?
Nous avons arrêté. À la réunion, il va falloir qu'on s'entende sur un minimum, c'est-à-dire sur un ordre du jour, sur un format du nombre de personnes qui vont participer à ce dialogue et sur le contenu des mesures d'accompagnement. En l'occurrence, nous avons posé comme condition pour qu'il y ait une décrispation que le gouvernement fasse un geste fort pour permettre à la classe politique de restaurer un peu la confiance entre nous. Par exemple, en ce qui concerne l'ordre du jour, nous avons arrêté que nous allons parler de A à Z des élections. Nous allons parler de la CENI. Nous allons parler du CNDP, le conseil dont je vous parlais. Nous allons parler de l'accès équitable aux médias d'État. Et nous allons parler d'un comité de suivi parce que par le passé comme par le présent, il n'y a pas de confiance. Ce qui est dit n'est jamais appliqué. Il va falloir qu'on ait un comité qui va suivre toutes les décisions que nous allons prendre avec un calendrier d'exécution.
Et quelles sont les mesures de décrispation que vous souhaitez obtenir?
La mesure de décrispation concerne bien évidemment la mesure sur les prisonniers politiques, parce qu'il y en a, les mesures sur les manifestations publiques et les médias d'État. Parce que comme vous le savez, les membres du PNDS et du gouvernement peuvent s'extasier sur les médias d'État alors que nous ne pouvons même pas dire bonjour.
Amadou Ali Djibo, président du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République au Niger.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, commémoration des 5 ans de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui a abouti au départ de l'ancien président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir après 27 ans à la tête du pays. Aujourd'hui, les familles des martyrs de ce soulèvement attendent toujours d'être réhabilitées dans leurs droits et les autorités actuelles, arrivées au pouvoir fin 2015, se voient confrontées au terrorisme. Le président Roch Marc Christian Kabore a demandé l'union sacrée des Burkinabés. Le reportage est signé Lamine Traoré depuis Ouagadougou.
Les 30 et 31 octobre 2014 resteront des dates historiques au Burkina. Blaise Compaoré, alors au pouvoir depuis 27 ans, acculé, avait été obligé à fuir. Les violences et la répression font une trentaine de morts et plus de 300 blessés. Les familles des martyrs, depuis maintenant 5 ans, attendent que justice soit rendue. Alors que la justice traîne les pieds, certains activistes appellent l'exécutif à s'immiscer dans les affaires judiciaires.
Roch Marc Christian Kabore, il faut qu'il prenne ses responsabilités pour faire juger tous les dossiers. Les gens sont tombés. Ils sont tombés pour rien, parce que jusque-là, il n'y a rien qui est fait.
P.K. Victor, président de l'Union des familles des martyrs de l'insurrection populaire de 2014.
Nous voulons la vérité, nous voulons la justice. Nous voulons nous libérer à jamais. Nous avons l'ASE qui a fait un travail remarquable. Les dossiers sont là-bas posés. Au niveau de la justice, ça ne bouge pas. Nous avons des corrompus qui sont en dehors de nos frontières, qui continuent à téléguider leur mentor au niveau du pays. Nous voulons que tout cela cesse. Roch Marc Christian Kabore Simanta, nous ne voulons plus revenir ici l'année prochaine sans que tous les dossiers ne soient liquidés, y compris les dossiers de Thomas Sankara et Norbert Zongo.
Le président de l'Union des familles des martyrs de l'insurrection populaire de 2014 dénonce la situation de certains blessés.
Il y a toujours un problème. Il y a des blessés qui ont des familles aujourd'hui qui ne mangent pas. Il y a des blessés à vie aujourd'hui qui n'ont plus rien. Il y a des blessés, même, ils ne peuvent même plus se rétablir, mais ils ne sont pas pris en charge. Et même au niveau des orphelins, nous avons toujours des problèmes aussi. C'est vrai que le pouvoir a fait quelque chose, mais pas beaucoup de choses. Hein. Nous attendons plutôt la justice et voir le cas des blessés aussi.
Aux côtés des familles des martyrs de l'insurrection ce jeudi, le président Kabore prône l'union sacrée. Le principal souci aujourd'hui, c'est le terrorisme.
C'est un appel que je lance toujours au peuple burkinabé pour rester soudé par rapport justement à l'île terroriste qui, depuis 2016, a commencé à faire, je dirais, tout feu sur notre pays. C'est un message de courage, c'est un message de solidarité, c'est un message que nous devons être unis quand le pays est attaqué. Parce que c'est cette unité-là qui nous a permis de sortir les 30 et 31 octobre de la situation que vivait notre pays.
Pour ces nombreuses familles des victimes, la lutte doit continuer. L'autre étape, ça sera la quête de la vérité, la justice. Le gouvernement de Roch Kabore a pris en charge plusieurs évacuations sanitaires des blessés de l'insurrection. Les regards sont depuis tournés vers la justice, qui doit faire la lumière sur ces dossiers. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Sénégal, la forêt de Bandia est en pleine dégradation. Les baobabs qui poussaient ont tous été détruits au profit d'une usine d'exploitation de calcaire. pour la fabrication de ciment. Irénée Herman Ongbo a les détails.
C'est tout ce qui reste de cette belle forêt de Baobab, un paysage mortifère de cratères abandonnés. Et les projets d'extension d'une cimenterie qui exploite le sous-sol ici depuis 20 ans font craindre aux populations locales une désolation croissante. Mamchek Ngom enseigne la géographie à l'université de Dakar.
Comme vous le voyez, dès qu'ils atteignent peut-être la partie où il n'y a plus de calcaire, alors là, ils abandonnent, ils laissent ça comme ça, vous voyez, ils ont laissé ça comme ça. Alors que dans le contrat, il a été bien précisé qu'après l'exploitation, il faut rembler, il faut restaurer et mettre de nouvelles espèces végétales.
Bandia et ses 10 000 habitants répartis en plusieurs villages bordent la forêt classée à une heure de voiture de Dakar. En 2002, une société sénégalaise, Les Ciments du Sahel, y a implanté sa cimenterie qu'elle alimente en calcaire en exploitant une vingtaine de mines à ciel ouvert dans les environs. Au Sénégal, le secteur de la construction étant en pleine croissance, l'annonce de l'attribution d'une licence d'exploitation de 236 hectares supplémentaires à cette entreprise a suscité colère et inquiétude des habitants et des associations de protection de l'environnement. Maria Madienne et Tierno Sis sont des agents de santé en service à la clinique de Bandia.
Ils devaient mettre de l'eau pour empêcher la poussière de se lever, arroser les routes, mais ils n'ont pas fait.
Depuis l'avènement des carrières, on a noté une recrudescence des maladies respiratoires, à savoir la tuberculose, l'asthme, les infections respiratoires telles que les pneumonies, les tourures.
Ici, la nature ne pourra plus jamais reprendre ses droits, se désole Mamchek Ngom, observant autour de lui avec tristesse l'un des rares baobabs encore debout.
Le baobab est un arbre vraiment culturel, hein, un arbre de civilisation pour nous.
Selon lui, il ne reste plus de la forêt que 2000 hectares, soit un cinquième de sa superficie originelle. Cette autorisation n'est pas définitive et les projets d'extension sont en suspens, défend le gouvernement sénégalais. Abdou Karim Sall est le ministre sénégalais de l'Environnement.
Quand on fait un classement et qu'on déclasse, on prend les dispositions pour faire en sorte que tout ce qu'on perd en termes de forêt, qu'on rattrape dans une autre partie du territoire. L'État du Sénégal s'est engagé à travers le plan Sénégal émergent à rendre le Sénégal vert.
Mais pour les riverains de la forêt de Bandia, le mal est déjà fait.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Eric Manilakiza à Washington vous souhaite une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique.